Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci à l'ARCEP pour l'accueil aujourd'hui. Je m'appelle donc Benoît Ampeau, directeur des partenariats et de l'innovation à l'AFNIC. Je suis très heureux d'être parmi vous et je suis d'ailleurs aussi accompagné par Hélène Bounon au fond de la salle, qui est ingénieure R&D à l'AFNIC et qui fournit depuis plusieurs années maintenant et qui est en lien direct avec Vivien les données qui vous sont présentées ou qui vous ont été déjà présentées et sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Alors, hop. Donc, l'angle que je vais avoir aujourd'hui, c'est si l'accès est prêt, l'hébergement tarde. Et donc, c'est un constat par le prisme du DNS que je vais vous proposer dans ces quelques minutes et que je vais essayer de synthétiser à partir des données disponibles, pardon, à la fois dans l'observatoire de l'IPv6, mais également dans le rapport de l'état de l'Internet qui ont été reprises par l'ARCEP. Donc chaque jour, à l'AFNIC, il y a des milliards de requêtes DNS qui passent par nos serveurs, dits faisant autorité, et beaucoup plus d'ailleurs par les serveurs dits résolveurs ou récursifs qui sont eux-mêmes opérés plutôt par des fournisseurs d'accès Internet ou des opérateurs d'infrastructures type cloud service. Et c'est précisément par ces données, les enregistrements Quad A, 4A pour IPv6 et aussi les serveurs eux-mêmes que nous pouvons voir aussi comment l'Internet français progresse vers IPv6. Depuis la configuration d'un nom de domaine, nous pouvons ainsi en déduire des informations sur l'hébergement DNS, l'hébergement web et l'hébergement mail. Alors, qui sommes-nous rapidement? L'AFNIC, je le rappelle, parce que mon directeur général me le demande aussi souvent, et c'est une petite boutade bien sûr, mais nous rappelons que l'AFNIC est une association loi 1901 et donc une association ouverte. On a aujourd'hui plus de 150 membres, donc n'hésitez pas à vous intéresser à l'aspect associatif et à éventuellement candidater pour devenir membre. On opère des extensions nationales, le FR et cinq extensions ultramarines, mais également des extensions dites géographiques, comme le point Paris, le point BZH, le point Alsace, le point Corsica, mais également des extensions pour grandes organisations. Alors aujourd'hui, les présentations précédentes, elles ont planté le décor. Je vais passer à la suite. L'épuisement des adresses IPv4 n'est plus une menace, c'est une réalité. On le sait depuis 2019, notamment via l'épuisement au niveau du RAI PNCC. Et donc, on a deux choix. Deux choix. Soit on continue à recycler des vieilles adresses IPv4 sur un marché dit secondaire, mais qui renchérit chaque année les coûts d'exploitation, soit on bascule massivement, et c'est pour cela qu'on est là, ici, tous ensemble, à IPv6 et on avance. Donc, l'enjeu, il est simple, mais il évite aussi une fragmentation de l'Internet en deux mondes. IPv4 d'un côté, un risque, et IPv6 de l'autre, où certains contenus deviendraient aussi inaccessibles à certains utilisateurs, ce qui a été aussi rappelé tout à l'heure. Et c'est là que je reviens un petit peu sur les propos de notre directeur général dans sa tribune au sein du rapport, c'est que la transition, elle n'est pas qu'un enjeu technique. On a beaucoup parlé d'enjeux techniques, on a aussi beaucoup parlé de capacity building, de formation, mais il y a un aspect économique et politique. Et donc, c'est pour ça que parce que rester sur IPv4, c'est aussi se marginaliser et renchérir les coûts. Donc ça, c'est un message important. C'est une raison économique qui est aussi à mettre en avant sur cet aspect. L'hébergement DNS. Donc j'aimerais insister sur un point évident pour vous ici, pour la plupart, mais pas toujours évident aussi, ou un peu secondaire pour beaucoup d'acteurs du numérique. Le DNS, c'est comme l'email, c'est comme l'hébergement web, c'est un service qui s'héberge. Les serveurs de nom, les serveurs qui font autorité, par exemple pour le .fr, ont une adresse IP. Et ces serveurs DNS, ils doivent être eux aussi accessibles en IPv6, tout comme un site web ou un serveur mail. Pourquoi c'est crucial? Parce que quand un utilisateur interroge le DNS pour résoudre un nom de domaine, si les serveurs de nom ne répondent qu'en IPv4, alors l'utilisateur qui ne dispose que d'IPv6 ne recevra pas de réponse à sa question. Ça peut être un goulot d'étanglement. Donc c'est un exemple que tous les hébergeurs doivent suivre parce que à l'AFNIC, on a déployé les serveurs faisant autorité sur IPv6 depuis près de 25 ans maintenant. Et donc, on espère que les serveurs de nom, aujourd'hui, ne deviennent pas un maillon faible encore pour certains registres de nom de domaine. Donc, les serveurs DNS, la bonne nouvelle, c'est que pour le .fr, ils sont déjà tous en IPv6 et aujourd'hui, ils sont accessibles aussi pour tous les utilisateurs, mais également accessible aux utilisateurs qui n'ont qu'IPv6. Pour d'autres services DNS hébergés, par contre, la réponse n'est pas toujours aussi évidente. Si je vais revenir un petit peu sur les hébergements web, maintenant on regarde si on regarde sur l'hébergement web, on voit que si on regarde tous les noms de domaine en .fr qui ont un certificat HTTPS ou un certificat valide, cela représente environ 2,4 millions de noms de domaine. On récupère alors leur enregistrement DNS et on vérifie leur accessibilité en IPv6. Donc, ce qui a été présenté par Vivien, c'est que seulement un gros tiers des sites web en .fr sont accessibles en IPv6. Oui, c'est mieux qu'avant. Il y a 3 ans, c'était 20%. Donc, il y a une grosse progression de 15 points, on peut le noter. Je crois que je suis allé un peu trop vite. Et par contre, on voit que parmi les 12 premiers hébergeurs, vous en avez quelques-uns qui ont dépassé les 50% en IPv6. C'est une excellente chose. Par contre, d'autres traînent encore ou leurs clients sont à la traîne. Parce qu'on l'a dit, il y a la possibilité d'avoir IPv6. Encore faut-il l'activer et utiliser. Voilà, c'est le constat qui se tient devant nous. Si les utilisateurs et les clients grand public peuvent accéder à l'Internet en IPv6, il reste malheureusement une grande partie des contenus qu'ils tentent de consulter qui ne sont simplement pas encore accessibles en IPv6. Je vais maintenant aborder rapidement les serveurs de mail. C'est une urgence un petit peu cachée. C'est le troisième maillon que les gens d'ailleurs oublient un peu souvent lorsqu'on parle d'adressage, c'est le courrier électronique. Le mail, bien sûr, ça va s'héberge. Fin 2024, seulement 22,9% des serveurs de mail associés au domaine FR, RE, PM, YT, ETF sont accessibles en IPv6. C'est encore plus bas que le web. Et là, par contre, on observe une accélération intéressante. C'est 4 fois plus rapide que les 4 années précédentes, qui n'avaient vu une progression que de 3 points, rendez-vous compte, c'est pas beaucoup. Plusieurs explications. Une, à mon avis, qui est la plus rationnelle, c'est que des gros fournisseurs de services mail ont retravaillé leurs infrastructures email. On a beaucoup aussi parlé des enjeux de délivrabilité, pardon, et de sécurité. Donc, je pense notamment à Microsoft et Google qui ont basculé les serveurs et progressivement, aujourd'hui, d'autres opérateurs suivent. Mais le constat reste le même. Le mail est en retard par rapport au web, qui lui-même est en retard par rapport à la connectivité ou à l'accessibilité. Alors pourquoi ça importe au-delà un petit peu d'IPv6? Et pour conclure, je vais ouvrir un peu la discussion. Pourquoi on doit continuer à promouvoir et à faire adopter l'IPv6? L'IPv6, oui, c'est important, au cœur des enjeux plus larges que l'ARCEP place d'ailleurs au cœur de son observatoire. Dans son dernier rapport, on évoque l'IA générative et ses défis pour l'Internet ouvert. Le constat, c'est que les IA génératives deviennent de plus en plus des nouvelles portes d'accès à Internet et au contenu. Et donc, ce qui pose une question cruciale. Dans un monde où une IA générative va créer et générer les microservices et les fameux agents IA, eh bien voilà, on parle aussi du DNS. Et le DNS pourrait également, par exemple, intervenir de manière innovante et utile. On a évoqué l'IETF grâce à Sébastien juste avant. Et à l'IETF, par exemple, se discute actuellement d'une manière d'accéder et de comment découvrir les agents IA. Et sur Internet, en fournissant des informations sur le protocole de transport, les éléments de sécurité, le port d'accès. Et quoi de mieux qu'une infrastructure existante, ouverte et décentralisée pour cette découverte, le DNS. Bien sûr, cette infrastructure de découverte doit être accessible à tous les agents et pour tous les agents IA. Et bien sûr, en IPv6. C'était juste une petite illustration de plus que pour illustrer que même pour des nouveaux usages, on s'appuie toujours sur des services essentiels d'infrastructure de l'Internet et il faut qu'il soit donc accessible en IPv6, c'est essentiel. Donc, nous encourageons donc les hébergeurs web, les prestataires de mail à aligner leur offre sur IPv6. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, parce que chaque mois qui passe en migration IPv6 ajoute de l'augmentation des coûts pour l'exploitation des services, rend l'Internet moins résilient et fragmente progressivement l'accessibilité. Plus largement, je pense qu'en tant qu'AFNIC, et le message que je voudrais délivrer ici, c'est que nous avons tous une responsabilité collective, garantir, et surtout à l'AFNIC, que l'infrastructure des noms de domaine, le DNS, reste une infrastructure de confiance, d'ouverture et d'interopérabilité. Ma conclusion, c'est que l'accès est prêt. 87% des clients fixes ont accès à l'IPv6, mais l'hébergement tarde. Et à chaque étape, DNS, web, mail, c'est un service qui est hébergé, qui s'héberge, et c'est une infrastructure qui doit rester ouverte, interopérable et en IPv6. Merci.
Justement, concernant la création d'un compte email, il faut toujours mettre un SSL ou un TLS pour justement sécuriser l'email. Donc actuellement, l'email est en clair. Tout le monde peut le lire. On a fait des tests avec IPv6 et je reçois mes emails encryptés. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce grand problème?
Alors, il y a la partie l'encryption sur la partie TLS, mais ce qu'il faut, c'est que le problème, c'est que les services mail, les hébergeurs de serveurs mail n'activent pas IPv6, tout simplement. Et donc, il y a des problèmes de terminaison et je dirais, au niveau des certificats. Et donc, c'est important d'intégrer tout cela au niveau des services
Le
mail.
problème est le même pour V4 aussi.
Et bien sûr, mais
Parce que la NAT.
le NAT coupe exactement
C'est
tous
à cause de
ces.
ça que l'email dans le monde entier est
Exactement.
en clair. Ça, c'est
Exactement.
pas normal.
Ce n'est pas normal. Alors, il y a d'autres mécanismes de sécurité qui permettent de garantir
Ah, d'accord.
l'authenticité, la
Bien
délivrance,
sûr.
mais on est tout à fait
Ça
d'accord
coûte
sur le
cher,
constat.
c'est privé, etc.
En fait, c'est un ensemble de.
Voilà.
Il faut un socle et après, sur le socle, on monte les services de sécurité nécessaires pour que ça
Vous
soit
êtes
de
le
bout en bout.
premier à me répondre sur cette
Merci.
question. Merci.
D'autres questions? Je sais pas si on a le temps. Oui.
Bonjour, Rado
Bonjour.
Ferdin, France X. Donc, sans vouloir casser un petit peu l'ambiance, donc on dit toujours l'Internet doit être unique. On voit que les gens qui sont IPv4 en ligne, ils sont pas trop dans cette logique-là. C'est l'Internet, c'est IPv4 by or var. Il y a quelques années, vers la fin d'un raid meeting, il y a eu une idée qui était lancée. C'est que les gens qui veulent pousser IPv6, ils configurent systématiquement pour un domaine qu'on déclare les serveurs DNS ou pour un sous-domaine, peu importe, que dans cette pool de serveurs, on a systématiquement au moins un qui ne fait pas d'IPv4. Donc, ça revient aussi à une autre idée, c'est toujours les gens qui sont IPv4 en ligne, ils disent IPv4 ça marche, IPv6 c'est cassé. Bah, cassons IPv4. Ça doit aider à la décision.
Je sais pas si je peux réagir là-dessus, mais c'est un beau commentaire, merci. Après, juste pour IPv4 aussi, pour les opérateurs de mail, juste pour terminer, certains nous ont aussi évoqué le fait que vous savez qu'il y a les listes d'abus sur le DNS et les phishing, etc. Et donc, ce sont souvent des listes qui filtrent des adresses IPv4 et encore très peu d'adresses IPv6. Donc, ça peut être aussi une des raisons. Merci.